Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Série noire à la une.
Un podcast de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France.
Série noire.
Bonjour, bienvenue dans Série noire à la une. C'est devenu un vrai rendez-vous chaque mois entre vous et nous sur retronews.fr et sur toutes les plateformes de podcast, un rendez-vous vivant où l'on croise l'histoire de la presse et celle du crime. Au-delà du fait divers lui-même ou de l'événement dont il est question, on a pu se rendre compte à quel point cette vision doublée presse et crime permettait de revisiter en relief les différentes périodes abordées et de nous donner à chaque fois le parfum de l'époque autant que ses lignes de front et de friction. Pour bien connaître une époque, ouvrez les journaux, regardez le centre de la page et ses marges et observez en même temps ce qui est considéré comme un crime et comment on en parle. Voilà ce qu'on propose dans Série Noire à la Une chaque mois. D'ailleurs, vous pouvez réécouter et partager les épisodes précédents où nous avons abordé par exemple les bandes d'Apache dans le Paris de 1900, la figure de Germaine Berton, l'anarchiste qui voulait venger Jaurès. On a aussi parlé de la Commune, de la Bête du Gévaudan, des avorteuses. Et vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de la suite de la série. Aujourd'hui, on se téléporte en 1901 dans l'Algérie colonisée au moment de la révolte de Marguerite.
Série noire à la une.
Une révolte, ou plutôt un pillage en bande organisée, a eu lieu près de Miliana, département d'Alger, dans le Douar d'Adelia. Ce sont des indigènes qui se sont révoltés. Ils appartiennent à la tribu des Beni Benasser et ont saccagé le village de Marguerite. Tout d'abord, la nouvelle assez grossie causa à Alger dans la soirée d'hier une vive émotion, bien naturelle. Un premier télégramme disait notamment « Les indigènes ont assassiné 7 personnes, dont le garde forestier. Le village est bloqué. Un administrateur adjoint est prisonnier et l'administrateur Marcel a essuyé 2 coups de feu, dont un l'a légèrement atteint. » Un témoin oculaire qui s'est sauvé avec les siens rapporte que l'attaque commença à midi. Une bande de 300 Arabes armés de fusils, de matraques et de couteaux assaillirent une ferme. À la gare d'Adelia, on rapportait que la receveuse des postes était assassinée. Toutes les autorités de Blida se sont rendues sur les lieux. Hier matin, à 4 heures, un escadron de chasseurs d'Afrique partira par un train spécial. Les hommes ont reçu des munitions de guerre. Monsieur de Lafourcade, colonel du 1er chasseur d'Afrique, est à Marguerite. Ce matin, partiront avec l'escadron le capitaine de France et le lieutenant Brown. Les troupes de Miliana sont arrivées à Marguerite hier après-midi. Enfin, on recevait bientôt à Alger les renseignements suivants sur les événements de Marguerite. Au dire d'un des témoins de la première partie du drame, Monsieur Rick Combe, grand commerçant bien connu à Alger, qui se trouvait à Marguerite avec sa femme, depuis longtemps, ouvertement, les indigènes de la turbulente tribu des Beni Benasser disaient entre eux comment ils se partageraient les propriétés lorsqu'ils en auraient délogé les possesseurs actuels.
Extrait du journal Le Public, édité à Paris dans le numéro du 28 avril 1901. Pour nous parler de l'insurrection de Marguerite, nous sommes avec Jennifer Sessions. Vous êtes professeure d'histoire à l'Université de Virginie, spécialiste de la colonisation française en Algérie au 19e. Vous écrivez actuellement un livre sur l'insurrection de Marguerite. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et il y a aussi Arthur Assaraf. Vous êtes maître de conférences en histoire de la France et du monde francophone à l'Université de Cambridge, spécialiste de l'histoire de la colonisation et de la presse. Bonjour à vous.
Bonjour.
Donc on a compris que c'était un podcast, une émission transatlantique et transmanche, voilà, qu'on est en train de faire. Arthur Assiraf, vous êtes notamment l'auteur de Electric News in Colonial Algeria. On peut signaler également votre article « La société coloniale face à l'actualité internationale » dans la revue d'histoire moderne et contemporaine. Alors, remettons-nous précisément dans le contexte de cet épisode, la révolte, l'insurrection de Marguerite, qui est une insurrection qui a eu lieu donc fin avril 1901 dans l'Algérie rurale. C'est un petit village viticole, Marguerite, à une centaine de kilomètres à l'ouest d'Alger. À ce moment-là, on pense que la période des insurrections est passée. Les dernières grandes insurrections dataient à l'époque d'une vingtaine d'années. Or, voilà les faits. Le 26 avril 1901, une dizaine de paysans donc prennent en chasse un fonctionnaire responsable local, le caïd d'Adélia, qui avait dénoncé à ses supérieurs le projet de ces paysans d'organiser un pèlerinage en avançant que leur intention, en réalité, était de rejoindre Bouhamama, un mythique dirigeant insurrectionnel. Le groupe de paysans a grossi, a rejoint le village de Marguerite. Les paysans ont mis la main sur des montures, des victuailles, des munitions. Les hommes du village ont été faits prisonniers. Certains ont été forcés de prononcer la profession de foi musulmane. 5 Européens ont été tués, un garde forestier, une receveuse des postes. Plusieurs autres sont blessés. L'insurrection en elle-même dure 8 heures. Et la réponse est immédiate. Le soir même, une compagnie de tirailleurs est envoyée de Miliana, la ville voisine. 125 suspects que des colons désignent en place publique comme ayant participé à la prise du village sont emprisonnés à Blida, puis transférés quelques mois plus tard à la prison Barberousse à Alger, où ils restent 18 mois. Et entre-temps, leurs biens, leurs troupeaux sont saisis, vendus, laissant les familles dans une misère totale. Et les accusés seront jugés en procès à Montpellier, donc en métropole, à la fin 1902. Une grande partie est finalement acquittée, avec aucune peine capitale du tout qui n'est prononcée. Alors cette histoire n'est pas forcément connue, c'est pour ça qu'on prend le temps là, de la décrire précisément, mais elle soulève plusieurs questions intéressantes sur les relations entre colons et colonisés, et sur une période peu présente finalement dans l'esprit général, quand on parle de l'Algérie et de la France, on pense plutôt à 1830, le début de la colonisation, ou Sétif 1945, ou évidemment la guerre entre 1954 et 1962. Et puis, ce qui sera intéressant aussi de voir, c'est comment quels sont les mots utilisés pour parler de l'Algérie dans la presse, à la fois en métropole ou sur place à ce moment-là. Première question que je vais poser à Jennifer Sessions, est-ce que ce serait une erreur de voir dans cette histoire-là, dans cette insurrection, de voir ça comme les prémices, les annonces des révoltes à suivre, parfois plusieurs décennies plus tard, plutôt que comme justement la suite des insurrections des années 71-81, qui étaient les vraies grosses insurrections précédentes?
Pour moi, oui, ce serait une erreur de prendre cette révolte comme le début du 20e. Pour moi, c'est plutôt la fin du 19e, de la période de la conquête et de toute une série de insurrections millénaires qui auront lieu d'entre 1840 à peu près et la fin du siècle. Et donc, on est vraiment toujours très loin d'un mouvement nationaliste organisé qui vise précisément, explicitement, l'indépendance de l'Algérie ou même la réforme majeure du système colonial. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y avait pas de but politique de l'insurrection, mais c'est des questions politiques plutôt au niveau local qui concernent les terres, les rapports de pouvoir et les relations entre colons et colonisés dans la région du Zakar, dans ce petit village viticole où on a des relations d'employeurs-employés, où les Algériens sont employés dans les vignobles français, européens, à des salaires au niveau de misère, où il y a des violences quotidiennes entre les Français, les Européens et les Algériens. Donc, c'est plutôt une expression de cette vie politique locale dans la lignée des insurrections anticoloniales du 19e siècle, plutôt que d'annonce de l'indépendance du 20e.
Mais c'est vrai que dans l'extrait, par exemple, qu'on a entendu au début, extrait du journal Le Public, qui est un journal édité à Paris du 28 avril 1901, donc juste après les événements, on est d'abord et avant tout sur la question de la relation entre les colons et ce qu'on appelle parfois les indigènes, Arthur Assiraf.
Oui, en fait, la question de savoir si ces événements sont purement locaux à la région de Reine Turki, de Marguerite, ou si en fait il s'agit de quelque chose de plus structuré, fait beaucoup de débats à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, il faut un peu s'imaginer comme n'importe quand on a ce qui apparaît comme une explosion de violence dans un ciel clair, On se pose les questions des motivations. Est-ce que c'est un accident ? Est-ce que c'est quelque chose de bizarre qui ne va pas se répéter ? Ou est-ce que c'est la partie émergée d'une sorte d'iceberg de ressentiment de la population algérienne qu'on n'a pas vu ? Donc effectivement, la presse, à la fois en France et en Algérie à l'époque, se pose beaucoup la question de savoir s'il y a une revendication politique structurée. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est-à-dire des réseaux qui organiserait les Algériens non seulement à travers le territoire algérien, mais aussi avec des musulmans d'autres pays, donc du Maroc, de la Tunisie, et au-delà. Et ça, en fait, effectivement, comme le dit Jennifer, on n'en a pas vraiment de preuves que les personnes qui ont agi ce jour-là, en 1901, avaient ces liens. En revanche, leur motivation était tout à fait inspirée d'un contexte national et mondial plus large.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire d'abord que la colonisation au sens large, c'est-à-dire la dépossession des terres, qui n'est pas juste un problème local, c'est un problème presque moral, c'est-à-dire on est dans une situation où les musulmans, puisque c'est comme ça qu'ils sont catégorisés par l'administration française, mais c'est aussi comme ça qu'ils se décrivent, se sentent dépossédés, et où l'islam est attaqué de toutes parts par l'impérialisme européen qui, effectivement, au tournant du XXe siècle, a tendance à prendre de plus en plus possession de territoires habités par des musulmans. Donc il y a une vraie sensation que l'ordre moral du monde est sans-dessus-dessous, que les gens qui devraient être en-dessous sont au-dessus. Ça, c'est une revendication courante dans les textes et les chansons et les poèmes de l'époque qui n'est pas exclusive à ces événements. Donc la manière dont se déroulent les événements de Marguerite, où on voit notamment cette tentative de forcer des colons à une sorte de rituel de conversion, on leur fait endosser un burnous, on leur fait prononcer la shahada comme une sorte de performance d'une conversion, semble indiquer que ces personnes souhaitent rétablir un monde différent, un monde où ils ne seraient pas renvoyés à une infériorité.
Est-ce que cet événement, cette insurrection, est l'occasion, à travers la presse, de, on va dire, faire une mise à jour des différentes positions par rapport à la colonisation, à travers différentes prises de parole et à travers différentes presses ? Parce qu'il y a aussi, il y a la presse de métropole, il y a la presse en Algérie, il y a la presse arabophone. Est-ce que c'est l'occasion de dessiner des lignes de front sur la question coloniale, Arthur Assaraf ?
Tout à fait. Alors Jennifer sera plus au courant de vous dire exactement quels sont les débats à l'époque. Mais en gros, l'affaire de Marguerite s'insère dans un contexte où il y a déjà un débat très virulent entre différents modèles de colonisation au sein de l'Empire français. Et où donc le modèle algérien est très fortement remis en cause. Donc par exemple, quand le protectorat français en Tunisie commence en 1880, il est établi comme un protectorat parce qu'on pense que l'Algérie, ça ne marche pas déjà. Donc il y a déjà ce débat. Les événements de Marguerite semblent prouver aux détracteurs qu'en fait la colonisation de peuplement telle qu'elle est appliquée en Algérie ne marche pas. Et donc ça mène à un débat très virulent. Alors, en métropole, en fait, on a une variété d'opinions, mais la presse métropolitaine a tendance plutôt à considérer que l'insurrection de Marguerite, on va dire, est un problème structurel qui vient en fait des inégalités de la colonisation. La presse française en Algérie, qui est très très importante à l'époque, il faut savoir qu'il y a plus de 100-130 journaux français en Algérie à l'époque, a aussi une variété d'opinions, mais a plutôt tendance à considérer que en fait, ce sont des, pour utiliser les mots de l'époque, des indigènes criminels, des fanatiques. On parle beaucoup de fanatisme, et donc, en fait, le problème ne vient pas de la colonisation. Le problème vient du fait que les musulmans sont arriérés et incapables de se comporter de manière civilisée.
Jennifer Sessions.
Oui, pour reprendre un peu le fil, en plus, c'est que l'État français a fait faute en ne protégeant pas les colons assez de ces fanatisés. Donc, il y a aussi une question des relations non seulement colonisées et colons dans le contexte algérien, mais aussi une question de rapport entre les Français d'Algérie et l'État métropolitain, la République française, qui a installé ses citoyens, qui a fait citoyens les Européens d'Algérie. Et puis, enfin, selon les colons, au moins, on voit beaucoup dans le contexte d'une panique sécuritaire de la fin du 19e, une accusation contre la France d'avoir abandonné ces colons à eux-mêmes, en face de cette masse de soi-disant fanatiques musulmans qui n'ont qu'une pensée, c'est de leur jeter à la mer. enfin de les jeter à la mer. Et donc, enfin une phrase qui revient à l'infini dans la presse coloniale. Et aussi dans les adresses ou les appels, les pétitions qui sont adressées par des dizaines et des dizaines et des dizaines de communes, d'associations, etc., des Européens d'Algérie, qui demandent d'être armés, par exemple, d'avoir la possibilité de porter des armes de guerre pour se protéger dans l'absence de l'État. Et donc, c'est aussi une interprétation comme ça de la relation entre l'Algérie, la société coloniale et la société métropolitaine.
Et justement, un extrait du courrier de Tlemcen du 31 mai 1901.
Au premier signal de l'insurrection de Marguerite, une seule voix s'éleva en Algérie. Il faut armer les colons de fusils et de munitions de guerre. Mais tout aussitôt, les objections se soulevèrent. Confier des armes de guerre aux colons, elles seront reléguées dans un coin humide de la ferme, exposées à être volées par les indigènes et dans tous les cas hors d'état d'être utilisées quand on en aura besoin. D'autres proposèrent de créer dans chaque centre à la mairie ou à la gendarmerie, là où il en existe, ou chez le garde champêtre, dans les centres qui n'ont ni gendarmerie, ni borge administratif, ni mairie, un dépôt d'armes et de munitions qui pourrait, le cas échéant, être distribué aux colons pour se défendre contre une attaque à main armée. Mais à cette proposition, on objectera avec quelques semblants de raison qu'en cas d'insurrection, les révoltés s'empareraient tout d'abord de ces dépôts d'armes qui, dès lors, au lieu de servir aux colons pour se défendre, se retourneraient contre eux.
Donc c'est un extrait d'une presse locale, hein, le courrier de Tlemcen, et très clairement un appel à obtenir des armes, et avec tous les débats déjà que ça pose, peut-être de manière simplement pour montrer qu'il y a du débat, mais en tout cas la volonté était bien d'avoir des armes. En parallèle, extrait d'un journal, lui, parisien, Le Matin, du 30 avril 1901, dans la voix d'un chroniqueur.
Partout et toujours, j'estimais que les races victorieuses avaient un devoir envers les races vaincues, et que l'accomplissement de ce devoir n'était pas seulement nécessaire pour satisfaire la conscience du conquérant, mais qu'il était encore la nécessité première du maintien et de la sûreté de la conquête. Croyez-vous que les Espagnols auraient perdu les Philippines si, au lieu de s'y faire haïr, ils s'y étaient fait aimer? J'ai l'air d'un rêveur, mais j'ai la prétention d'être un politique pratique en concluant de la révolte accidentelle et sans importance d'aujourd'hui, à ce programme à appliquer en Algérie. Se faire aimer à force de justice.
Voilà, on est sur les deux lieux, hein, ces deux lieux différents et ces deux endroits de l'échiquier politique manifestement différents. C'est aussi l'occasion pour la République française de valoriser une figure qui est la figure de l'institutrice républicaine, celle qui se serait Mademoiselle Goublet, voilà, qui se serait opposée aux révoltés qui accouraient menaçant vers l'école. Je cite le Petit Parisien, supplément du dimanche du 19 mai 1901. Cette Mademoiselle Goublet, noble femme, s'élançant au seuil de l'école face aux assaillants et qui leur cria « Tuez-moi si vous le voulez, mais ne touchez pas à ces pauvres enfants ». Donc, il est dit que Mademoiselle Goublet serait récompensée pour avoir représenté les instituteurs et institutrices de France. Classe si laborieuse, si dévouée, si patriote, si courageuse, enfin, comme on vient de le voir, quand la situation le commande. Donc c'est le moment aussi de rassembler, quoi, de construire. On est encore dans une période où la République est jeune.
Oui, tout à fait. Et c'est, enfin, on voit déjà les aspects mythologisants de l'affaire dès le début. Et donc, enfin, même pour remonter à l'introduction que vous avez fait de l'affaire, il y a des fautes qui se glissent un peu partout dans la presse. Par exemple, c'est pas la tribu des Beni Menasser, c'est les Rira, qui sont la majeure partie des insurgés. Il n'y avait aucune femme de tuer. Mmh. Donc, cette fameuse femme dont vous avez cité, non.
La receveuse de la poste, c'est ça.
Oui, voilà. Ouais. Donc, sortie indemne de l'affaire. Mmh. Mais en même temps, Mademoiselle Goublet n'était pas du tout mademoiselle, c'était une madame d'une soixantaine d'années.
C'est ça, c'est ça.
Et donc, qui est montrée dans les journaux illustrés comme une jeune femme blonde, très jolie, etc. Mais en fait, c'est une ancienne du système de l'éducation laïque en Algérie, qui a été combattante depuis 20 ans, enfin 15-20 ans, du côté de la République laïque contre les forces nationalistes conservatrices au niveau du village. Donc elle est en conflit depuis des années avec le grand propriétaire qui représente les forces conservatrices dans le Dakar, et donc qui va être mise en valeur comme une symbole de la République laïque dans le cadre surtout de l'affaire Dreyfus et du combat entre la République laïque et la République, la France catholique nationaliste. Et par exemple, on va rapporter beaucoup que Madame Goublet aurait reçu 500 lettres et cadeaux dans le mois qui suivent les premiers rapports de l'affaire dans la presse, et qui va être invité d'honneur dans des rassemblées des instituteurs et institutrices sur France dans les années qui suivent. Et c'est une figure très intéressante qui montre les mythologies du fait divers, mais aussi des combats politiques de l'époque.
Et on se rend compte que la presse, une certaine presse, fait véritablement œuvre de propagande avec le cas de cette mise en avant d'une telle figure.
Exactement.
Arthur Assaraf, moi, je me demandais, quand on travaille sur l'action de la presse, après sur cette période-là, à cet endroit-là, on l'a dit, on l'a cité d'ailleurs, il y a la presse locale, algérienne, française-algérienne, il y a la presse de métropole. Quelle est la place de la presse arabophone, et est-ce qu'on traite aussi d'autres modes d'information ?
Oui, c'est une question très intéressante. On est dans une situation très paradoxale en Algérie à l'époque où, d'un côté, on est dans une société de médias de masse, donc en fait, la population des colons en Algérie, qui sont à peu près 500 000, un demi-million vers 1901, ont une presse extrêmement développée. Donc, comme en fait, dans n'importe quel endroit de la France de la Troisième République, la plupart des hommes adultes lisent les journaux tous les jours, les femmes moins, mais c'est quand même de plus en plus le cas. Et d'un autre côté, du côté de la population musulmane algérienne, qui est donc très majoritaire, on parle de 90% de la population à peu près, on a très 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 forte proportion d'analphabétisme, notamment en français. C'est-à-dire dans les années 30, quand on a les premiers chiffres, on estime que 2% de la population adulte masculine algérienne peut lire le français, et ça c'est 30 ans plus tard. Donc on a une société où il y a beaucoup de journaux en français et très peu de gens qui peuvent les lire. Il n'y a pas de journaux à l'époque adressés à la population musulmane algérienne. Il y a des tentatives très brèves, qui sont généralement en français, mais qui ne durent pas, qui sont souvent interdites, ou qui font faillite. Il n'y a pas de journaux en arabe à destination des Algériens. En revanche, il y a dans d'autres pays, notamment en Tunisie voisine, mais aussi en Égypte, une presse arabophone, évidemment très conséquente déjà à l'époque. Donc les Algériens importent, alors parfois de manière légale, parfois de manière clandestine, des journaux arabophones d'autres pays, et les lisent. Ce qu'on a aussi, ce sont énormément de lectures publiques de journaux, notamment dans les cafés morts, donc c'est-à-dire dans les cafés destinés aux hommes algériens, et on sait que l'affaire de Marguerite occasionne des débats passionnés et des lectures assez contradictoires dont s'inquiète l'administration. Donc en fait, on a des rapports de surveillance assez précis dans la région de Bléda, de Médéa, autour en fait, des deux côtés de la montagne où se passent les événements, où on sait que certains personnages bilingues, donc en fait, ce sont soit des juifs algériens qui ont été à l'école française, soit des musulmans mais qui ont été formés à l'administration, qui font la lecture des journaux en français et les interprètent. Et en fait, ce qui inquiète beaucoup l'administration, c'est qu'on ne sait pas comment ils les commentent, en arabe.
Alors arrive finalement plusieurs mois après un grand procès, un procès qui se tient non pas en Algérie, mais à Montpellier, avec de nombreux accusés qui ont fait 18 mois de prison avant d'arriver à l'étape de ce procès. Un procès où il y aura trois quarts des accusés vont être acquittés. Certains vont être condamnés à des travaux forcés, une dizaine d'entre eux, et ils n'en reviendront pas. Ils vont mourir pendant ces travaux, pendant cette période de cette condamnation. Il y a quelques condamnations à des peines courtes de prison. Comment lire la question de la délocalisation de ce procès en métropole, Jennifer Sessions?
La procédure de délocalisation, c'est une procédure qui existe dans le système juridique algérien, enfin colonial, dès les années 1830. Donc c'est un recours aux juridictions métropolitaines qui a lieu sous différentes conditions tout au long de la période coloniale, mais qui va s'accélérer dans les années, enfin après l'instauration de la Troisième République, surtout en ce qui concerne les indigènes algériens. C'est un procédé juridique qui correspond, enfin dont l'usage correspond à ce questionnement du racisme des Européens d'Algérie. Et il y a dans les milieux juridiques et devant les parlementaires de plus en plus de questions sur le jugement et la rationalité, l'impartialité des colons, enfin des jurés colons, qui ont tendance à ne pas même écouter les preuves ou les arguments, mais juste de condamner les Algériens, d'acquitter des Européens pour pouvoir rentrer plus vite chez eux après les assises. Et donc, c'est un fait, la tenue du procès à Montpellier fait partie d'une tendance juridique qui correspond vraiment à cette critique de plus en plus aiguë des Européens d'Algérie par les parlementaires et les hommes, enfin les juristes français, mais aussi algériens. Dans l'école d'Alger, l'école de droit d'Alger, il y a des juristes aussi qui voient ce qui se passe devant les assises algériennes et se posent vraiment des questions. Est-ce que, enfin, le juré qui est censé être le jugement par ses pairs, est-ce qu'il y a des pairs dans la situation coloniale?
Non, ce qui est certain, c'est que certains colons réclamaient tout simplement la fusillade et pas du tout la tenue de procès, que ce soit en Algérie ou en métropole. Extrait de la dépêche du 23 janvier 1903, une prise de parole du procureur général, justement, du procès.
On a prétendu, avant que je prononce mon réquisitoire, ajoute le procureur général, que j'abandonnais l'accusation pour 80 accusés. Je ne l'abandonne pas pour un seul. Cependant, je dois déclarer que si la punition doit être sévère pour certains, elle doit être moindre pour d'autres. Ceux qui ont subi 2 ans de prison et qui doivent être condamnés à moins. Il faut prononcer contre eux la peine quand même. Elle aura été subie, mais du moins la justice sera respectée. Les coupables seront en liberté le lendemain. Et pourtant, ils sauront qu'en cas de récidive, la peine sera plus grave. Je vous demande donc qu'il y ait le moins d'acquittement possible. Je suis dans la doctrine qui veut rapprocher les jurés des maîtres de la peine, en élaguant pour quelques-uns les circonstances aggravantes et en répondant affirmativement pour les faits de pillage. Vous condamnez cela à 6 mois de prison. Demain, ils seront libres, mais marqués du sceau de leur crime. Nous vous demandons de protéger les Français de l'Algérie contre les criminels arabes. Nous sollicitons la justice exacte, vraie, humaine.
Donc, de la part du procureur, déjà une demande une forme de nuance, on va dire, même s'il s'agit de condamner ceux qui ont fait 2 ans de prison en attendant le procès, de les condamner aussi à 2 ans pour que la peine soit justifiée. Mais il y a une forme de nuance. Et en parallèle, dans la dépêche, quelques jours plus tard, en attendant le verdict, un chroniqueur écrit la chose suivante. Comprend-on tout ce que ce système de violence contre les personnes et de dépradation a pu amasser de haine contre les Arabes? Qu'on y joigne le fanatisme et l'on sera convaincu que l'insurrection de Marguerite a été une révolte de prolétaires fanatisés, persécutés et littéralement affamés. Certains ont cherché à la présenter comme le fait de voleurs et pillards. On ne saurait sans folie soutenir cette opinion. La vérité que nul aujourd'hui ne saurait contester après les douloureuses révélations du procès de Montpellier est que l'Arabe gémit sous un régime de terreur et de misère et que, jusqu'à ce jour, il n'a pu compter ni sur la justice ni même sur la bienveillance de la métropole. si la France laisse subsister ce régime, ou elle perdra l'Algérie, où elle aura fatalement à réprimer des insurrections encore plus terribles que celles de Marguerite. Donc à lire dans la presse, au moment de ce procès, en 1902, donc une grosse année après les troubles de Marguerite, l'insurrection de Marguerite, il y a quelque chose malgré tout, même si cela, comme vous le disiez tout à l'heure, Jennifer Sessions, n'annonce pas, n'est pas la première occurrence des révoltes à venir. Néanmoins, certains ont su y lire, d'une certaine manière, la suite de l'histoire des rapports entre la France et l'Algérie.
Ah oui, tout à fait. Et ce procureur que vous venez de citer, dans son rapport confidentiel au garde des Sceaux, après le verdict qui vient en février 1903, va dire que, enfin, il va dégoûter déjà du taux d'acquittement, mais aussi il va l'expliquer selon un informateur qu'il aurait dans le jury, qui est censé être confidentiel, mais bon, que l'argument des jurés qui avait empêché l'imposition des peines capitales aurait été que les faits étaient politiques et la France avait aboli la peine de mort pour les crimes politiques. Et donc, on a des indices comme quoi, au moins, dans le juré, on aurait fait une lecture politique des événements pour justifier les peines que les colons vont trouver absolument inadmissibles.
Alors, il faut bien dire que ceux qui vont être acquittés sont malgré tout condamnés d'une certaine manière à la misère, hein, parce qu'on leur a confisqué tout à eux et à leur famille, là, depuis déjà presque 2 ans à ce moment-là. Donc, malgré tout, ils auront leur vie sera radicalement modifiée par ce procès. Une dernière question pour Arthur Assaraf. Est-ce qu'il y a une autre manière de parler de l'Algérie après Marguerite dans la presse, que ce soit la presse de métropole ou la presse algérienne? Une autre manière de parler de ces rapports entre la métropole et l'Algérie? Et entre populations musulmanes et colons?
De manière générale, j'ai envie de dire que non. Je pense par contre que ces débats qui en fait explosent de manière assez visible durant l'affaire de Marguerite persistent entre différentes tendances d'opinion à la fois en France et en Algérie au sein de la population coloniale, et aussi que en fait les premiers mouvements organisés de manière visible d'Algériens musulmans qui émergent en fait quelques années plus tard vers 1911-1912 appuient sur ces divisions et tendent en fait à reprendre les arguments, on va dire, libéraux des métropolitains pour faire pression sur l'opinion publique métropolitaine. Mais en fait, une bonne partie des débats dont on parle sont des débats que je pense qui sont structurels à la situation coloniale dans une colonie de peuplement. Donc en fait, la question de comment est-ce qu'on peut organiser la violence? Est-ce que la violence peut être vraiment organisée dans un système où est-ce que, en fait, elle déborde et qu'il faut, par exemple, armer les colons et les laisser tuer des Arabes, mais de manière pédagogique, c'est explicitement assumé à l'époque. C'est-à-dire, si on en tue quelques-uns, ça donnera des leçons aux autres, sans forcément que ce soit les coupables. Ça, c'est quelque chose qui revient de manière extrêmement répétée. C'est le cas dans la guerre de conquête, c'est aussi le cas en 1945 à Sétif, où il y en a des milices de colons armés qui vont réprimer les populations dans la région. Donc je pense qu'il y a... Je ne sais pas si on peut décrire Marguerite comme un tournant, en fait. On a des arguments qui deviennent plus visibles, mais finalement, il y a beaucoup de répétitions de ces débats dans les années qui viennent, sans vraiment qu'on les résolve. On n'arrive pas à savoir comment avoir une colonisation qui n'est pas violente, parce qu'en fait, c'est pas possible. Enfin, je dis ça un peu rapidement, mais c'est vrai. On ne peut pas résoudre les contradictions de ce système.
Merci à tous les deux. Jennifer Sessions et Arthur Assaraf de nous avoir éclairés sur cet épisode parfois méconnu du rapport entre la France et l'Algérie, cette insurrection de Marguerite fin avril 1901.
Merci.
Merci.
Voilà, c'est la fin de ce 6e numéro de Série Noire à la Une, la presse et le crime, le podcast de Rétro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France. Ce podcast a été préparé par Camille Ferret et réalisé par Emmanuel Beau, produit par Wave Audio avec l'aide de toute l'équipe de Rétro News, Étienne Manchette, Julie Durufflé, Julien Morel. Thomas Baumgartner au micro, on se retrouve dans un mois sur toutes les plateformes et sur rétronews.fr pour plonger dans l'histoire de la presse avec une autre Série Noire à la Une.
Série Noire à la Une.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.